Paul Alexis.
Après la bataille. On se battait encore, très loin maintenant, sur l'autre versant du plateau, à 2 ou 3 lieues. Le jour touchait à sa fin sans que la canonnade se ralentît. Un brouillard glacé, se levant du fond de la vallée voisine, assourdissait les coups. Un fantassin français se traînait sur la grande route départementale, seul, blessé au pied gauche. Une balle lui avait labouré le talon, heureusement sans fracturer l'os, et elle était ressortie. Obligé d'arracher son soulier, il avait pansé la plaie comme il avait pu, avec un pan de sa chemise déchiré en bandes. Il avançait très lentement, se servant de son fusil comme d'une canne, appuyant le moins possible son pied malade contre le sol durci et rendu glissant par la gelée. Les linges du pansement étaient tout rouges, imbibés de sang comme une éponge. Non seulement sa souffrance physique était très grande, mais, avec la mobilité de sa physionomie, à certains longs frissons qui le secouaient tout entier, on était sûr que ce petit corps grêle et chétif, à organisation nerveuse, éprouvait toute sensation, agréable ou pénible, physique ou morale, d'une façon excessive. Un mince cache-nez, noir, de laine très fine, était noué autour de son cou. Bleuies par le froid, ses jolies mains, qui à l'ordinaire étaient sans doute très blanches, avaient des engelures aux doigts comme celles d'un enfant. Bien qu'il eût 28 ans sonné, il n'en paraissait pas 20. Il portait sa moustache naissante. De rares poils de barbe blonde, qu'il n'avait pas dû raser depuis 3 mois, couvraient un menton un peu long, au bas des joues blêmes, pâlies encore par la perte de sang. Sa capote, son pantalon rouge, la guêtre et le soulier chaussant son pied restaient valides, tout cela se trouvait trop large. Malgré ses délicates apparences, le jeune blessé n'avait pas jeté son sac, dont le poids écrasait ses chétives épaules. Et tant bien que mal, sautant sur un pied plutôt qu'il ne marchait, s'arrêtant tous les 2 ou 3 sauts pour ramasser à nouveau ses forces, il avançait toujours. Mais il arriva un moment où, malgré l'énergie de sa volonté, il lui fut impossible d'aller plus loin. Il n'eut que le temps de gagner au bord de la route une borne, au pied de laquelle il laissa choir son sac, et il s'assit sur le sac. Maintenant la nuit était noire, le brouillard plus épais. Le dos appuyé à la borne, il écouta. Plus rien. Pas un bruit humain, pas même un aboiement lointain de chien ni un cri de chouette. À se croire au fond d'un désert, et d'un désert ne contenant pas une bête vivante. Il appliqua l'oreille contre le sol. Alors, tout là-bas, quelque part au fond du brouillard, un très lointain grondement. Le canon tonnait encore. Qu'est-ce que ça lui faisait maintenant que la bataille continuât et que l'armée française fût ou non victorieuse? Lui pourtant un engagé volontaire par enthousiasme patriotique. Il s'appliquait à consolider de son mieux le bandage improvisé de sa blessure. Puis, n'ayant rien pris depuis de longues heures, il se souvint qu'il devait avoir un reste de biscuit dans une poche de sa capote. Et il grignotait mélancoliquement son biscuit dur. Sa soif était ardente. Rien à boire. Il portait bien une petite gourde en bandoulière, elle se trouvait vide. Il la déboucha pourtant, la porta à ses lèvres. Une seule goutte d'eau-de-vie lui arriva sur la langue. Il se mit à réfléchir sur sa position. Il ne savait même pas où il se trouvait. Tant de marches et de contre-marches, depuis 15 jours que son détachement avait rejoint l'armée de Chanzy et faisait campagne, l'avaient complètement désorienté. Ses idées, d'ailleurs, depuis qu'il s'était réveillé de son évanouissement au milieu d'un champ de betteraves, manquaient de netteté. Combien de temps était-il resté évanoui? 10 minutes? 3 heures? Une journée entière? Il ne savait pas. Tout ce qu'il se rappelait était ceci. Son bataillon avait passé une nuit entière dans un petit chemin creux, les hommes couchés à plat ventre, tout habillés. Défense de se servir du campement, même d'allumer une cigarette. Tout cela pour ne pas donner l'éveil aux avant-postes bavarois qu'il s'agissait de surprendre. Un peu avant l'aurore, une batterie de 6 pièces était arrivée dans le chemin creux et son bataillon s'était porté à 1500 mètres. Là, quelques minutes de halte derrière un rideau de peupliers, puis une centaine de ses camarades et lui avaient dû s'avancer en tirailleurs contre un long mur de clôture crénelé par les Allemands. Ce mur, il eût été si simple de le raser avec quelques coups de canon. Mais la batterie du chemin creux, probablement, ne devait pas s'engager sans ordre supérieur. Il avait donc fallu marcher bêtement, à poitrine découverte, contre un mur crénelé. Comme le cœur lui battait. Sa première affaire, le moment attendu avec impatience depuis 4 mortels mois passés dans les camps d'instruction, mal équipé, mal nourri, mal commandé, fatigué par des exercices insipides. Il ne faisait pas bien jour. Pas un coup de fusil encore. Pas une sentinelle ennemie. Qui sait, on allait peut-être surprendre une fois ce qui nous avait si souvent surpris nous-mêmes. Ne disait-on pas merveille du jeune général en chef? Cette aurore glacée ne serait-elle point par hasard l'aurore d'une grande victoire? Lui n'aurait pas peur, ferait son devoir comme les autres. Et s'il allait avoir peur pourtant? Ce doute importun, humiliant, le secouait dans sa marche d'un tremblement nerveux. Aussi maintenant, c'était de l'impatience, un furieux désir qu'elle ne se fît pas attendre plus longtemps, cette première décharge qui le fixerait sur sa bravoure, qui le ferait tomber évanoui de lâcheté nerveuse, ou qui le transporterait de la surexcitation des héros. Voilà qu'ils étaient arrivés à 40 pas du mur crénelé. Qu'attendaient-ils pour tirer, les enfants de ce peuple flegmatique et lent? Il se sentait presque tenté de leur crier « Faites donc feu, sacrés imbéciles !» Pour un rien, il aurait déchargé lui-même son chasse-pot en l'air afin de leur donner l'éveil. Puis tout à coup, un énervant vacarme l'avait assourdi. Et lui-même, au hasard, il avait fait feu dans la fumée. Puis instinctivement, il s'était jeté à plat ventre. À partir de ce moment, ses souvenirs devenaient confus, se réduisaient à peu de choses. L'agaçant assourdissement des détonations avait continué. Dans la fumée de plus en plus épaisse, des balles sifflaient, quelquefois tout près de son oreille, puis s'enfonçaient dans la terre, hachant les betteraves comme des grêlons poussés par un grand vent. Tout ce qu'il savait, c'était que les 100 autres tirailleurs, ses camarades, étaient tous couchés comme lui, sains et saufs ou morts. Ce qu'il apercevait encore au milieu de la brume de sa mémoire, mais alors nettement, c'était l'effrayant et inoubliable changement à vue du visage d'un soldat nègre à 4 pas de lui, devenu blanc tout à coup, affreusement blanc, pendant une minute, tandis que la cervelle coulait hors du crâne décaloté et recouvrait la chevelure crépue. Alors lui, à côté du cadavre du nègre, s'était fait tout petit, n'avait plus remué, s'efforçant de se garantir le crâne avec la crosse de son chasse-pot. Le reste n'était plus que ressouvenance vague, l'espèce de coup de fouet qu'il avait cru recevoir au talon, la perte de son sang, une lourdeur de toute la jambe gauche, la sensation de son pied baignant dans un liquide d'abord tiède puis glacé. Tout se confondait encore dans sa tête comme les imaginations brouillées d'un cauchemar. Il n'était pas bien sûr d'avoir tenté un moment de se remettre sur ses jambes puis d'être retombé. Comme aussi une secousse du sol ébranlée par de la cavalerie, des sabots de chevaux battant l'air à côté de son visage, peut-être le passage d'un escadron entier au-dessus de son corps, tout cela était possible. Ces choses et probablement d'autres encore avaient pu se passer de l'autre côté du pesant voile noir qui lui était descendu sur les yeux, qui l'avait enveloppé d'anéantissement. Enfin il venait de s'éveiller, seul dans le brouillard glacé, dans la nuit tombante, dans l'immensité de la campagne devenue subitement déserte et silencieuse. Il frissonnait de froid, de peur. Une tentative pour se relever n'aboutit qu'à une douleur aiguë au pied gauche. Retombé assis sur son sac, il s'accouda de nouveau sur la borne, découragé, très faible. Dans quelques instants, si l'on ne le secourait pas, il perdrait encore connaissance. Un dernier espoir, que quelqu'un, français ou prussien, ami ou ennemi, passa bientôt sur la route, et il tendait l'oreille. Rien. Alors, rassemblant le peu de force qui lui restait, d'une voix traînante et plaintive, il appela.
« Au secours ! Quelqu'un de grâce ! Quelqu'un ! Au secours !»
Il se reposa un moment, recommença à plusieurs reprises. Entre chaque appel, il écoutait. Personne. Un terrifiant silence. Alors des larmes, de grosses larmes, lui envahirent les yeux, puis coulèrent silencieusement le long de ses joues d'enfant. Tout à coup, comme si une ressource suprême à laquelle il n'avait pas encore songé se présentait subitement à lui, ses larmes ne coulèrent plus, et il se mit à faire le signe de la croix. Maintenant ses lèvres remuaient et murmuraient tout bas quelque chose, des prières ferventes, mais ses prières étaient en latin. Il pria ainsi longuement, les mains jointes, remuant par habitude le pouce et l'index de la main droite, comme si ses doigts eussent égrené un chapelet. Il baisait de temps en temps avec dévotion un scapulaire et une petite médaille pendue à son cou par un cordon noir qu'il venait de retirer de dessous sa tunique. Son képi, ôté par respect, était déposé à terre. Au sommet de sa nuque blanchissait une large plaque ronde où la chair se voyait, ses cheveux n'ayant pas repoussé. Celui qui implorait ainsi des secours célestes avait porté tonsure. Ce fut alors qu'un lointain roulement arriva à ses oreilles. Grand Dieu, ses supplications seraient-elles miraculeusement exaucées? Défaillant d'espoir, il se pencha du côté d'où venait le bruit. Plus de doute, un roulement de voiture. Déjà distinctement, le grincement des essieux, des bruits de sabots de cheval. Mais il n'apercevait encore rien. Pourvu au moins que ce fût bien sur la route au bord de laquelle il était assis. Un moment, il n'entendit plus aucun bruit, et il trembla de tous ses membres. Si la voiture, arrivée à destination, ne devait pas aller plus loin, ou s'était détournée dans quelque chemin de traverse. Coup sur coup, quatre ou cinq signes de croix, cette fois de la lâcheté pure. Que faire alors? Appeler? Mais était-ce prudent? Des cris pouvaient effrayer celui qui conduisait et le décider à prendre une autre route. Puis il entendit de nouveau. Le cheval avançait au trot sur la route, passerait bientôt devant lui. Si l'on n'allait pas s'arrêter maintenant, un coup de fouet au cheval pour toute réponse au gémissement de l'éclopé. Non, je me coucherai en travers, que les roues alors me passent plutôt sur le corps. Et le désespoir lui donna la force de se traîner jusqu'au milieu de la route. Un grand chariot à quatre roues, recouvert d'une toile goudronnée tendue autour de trois cerceaux en bois, arrivé sur lui au petit trot, n'était plus qu'à quelques pas. Essoufflé, épuisé, le blessé voulait appeler. Il n'arriva qu'à pousser quelques plaintes inarticulées. Pas de lanterne allumée, il pouvait être écrasé. Heureusement, le cheval eut peur et s'arrêta net, recula même un peu.
« Qui est là ?»
s'écria une voix de femme. Et le bruit d'un revolver qu'on armait se fit entendre.
« Au secours, pitié, je suis blessé !»
Il ne put en dire davantage. Ses yeux se fermèrent et sa tête retomba contre la boue gelée de la route. Quand il rouvrit les yeux quelques instants après, une vive clarté l'aveugla. La femme venait d'allumer une lanterne et du bord de la charrette, penchée vers lui, elle le regardait.
« Qui êtes-vous ? »
répétait-elle.
« Que faites-vous là, au milieu de la route ?»
Sa voix chaude, musicale, un peu basse, étranglée par une violente émotion qu'elle s'efforçait de dissimuler, révélait une grande jeunesse. Très garantie contre le froid, empaquetée dans une énorme pelisse brune de paysanne sous laquelle elle devait porter un second manteau, elle avait mis le capuchon. On ne voyait rien de son visage. Sa main droite ne lâchait pas le revolver tout armé. Elle se méfiait. Des tentations lui venaient, éteindre tout à coup sa lanterne, faire un détour au cheval afin de ne pas écraser cette larve humaine gémissante qui obstruait la route, s'éloigner très vite. Mais cela, ce serait fuir, avoir peur sous prétexte de prudence, être lâche. D'une voix distraite, indifférente, elle interrogeait encore le jeune homme. « Depuis quand était-il atteint ? Où souffrait-il ? » Et, pendant les réponses de l'autre, un combat se livrait en elle. Tout à coup, elle se retourna vers l'arrière du chariot. Le regard qu'elle jeta, là, sous la bâche tendue autour des cerceaux, l'un de ces regards par lesquels d'ordinaire on consulte quelqu'un, parut la décider. Pourtant, il n'y avait personne. La jeune femme voyageait seule.
« Attendez !»
dit-elle.
« Je vais descendre. »
Malgré sa grande faiblesse, le blessé se rendit bien compte de ceci. La jeune femme, en s'approchant de lui, gardait un tremblement nerveux. Elle avait conservé sa lanterne à la main. De l'autre main, elle lui présenta une bouteille toute débouchée. Il but avidement, c'était du rhum. « Merci, dit-il, ça va déjà mieux. » Elle lui tendait de nouveau la bouteille.
« Tenez, encore !»
Elle se penchait vers lui et son capuchon se souleva. Elle lui parut merveilleusement belle. Il n'en finissait plus de boire, il était troublé. Elle s'impatienta.
« Voyons vite, je n'ai pas le temps !»
Alors il la regarda avec inquiétude.
« Gardez la bouteille, j'ai aussi du pain que je vais vous laisser. Et maintenant, tâchez de vous ôter du milieu de la route. » « Je vous donnerai la couverture du cheval. Vous pourrez attendre le jour. »
Elle disait tout d'une voix sèche, hachée, impérative, n'admettant pas de réplique. Une grande dame commande ainsi à ses domestiques. Lui se sentait humilié, comme s'il avait reçu une aumône. Le cœur déjà plein de reconnaissance pour celle qui le secourait, il eût voulu lui baiser la main, et pourtant il lui prenait des envies de pleurer. La rougeur au front, réconfortée par le rhum, mais surtout stimulée par la honte, il se mit debout. Le sac était resté à terre. Elle le ramassa, le porta elle-même jusqu'à la borne.
« Là, vous ne risquerez plus au moins d'être écrasé. »
Et elle éleva sa lanterne. Le malheureux s'avançait clopin-clopant. Elle n'osa plus lui dire « Dépêchez-vous !» Elle fit même quelques pas à sa rencontre, élevant toujours la lanterne. Ses regards rencontrèrent ceux du blessé. Elle s'aperçut qu'il avait les yeux pleins de larmes. Elle remarqua aussi sa grande jeunesse. Un commencement d'intérêt naissait en elle. Elle lui adressa de nouvelles questions.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Gabriel, Gabriel Marty. »
« De quel pays êtes-vous ? »
« De Vitré. » « Tiens, de Vitré. Et elle, de Rennes. Un breton comme elle. » Presque un compatriote. Elle le regarda plus attentivement. La distinction de ce visage maigre, souffreteux, frappa la jeune femme. Elle se retourna vers le chariot. Un combat, de nouveau, se livrait en elle. En des circonstances ordinaires, elle aurait transporté ce garçon quelque part, dans une ambulance ou jusqu'à la première auberge.
« Je ne puis pas. Je ne puis pas. »
En prononçant ces « je ne puis pas », sa voix s'était attristée. Elle devait être sous le coup d'une grande douleur. Et Gabriel Marty, distrait un moment de son angoisse personnelle, retenait son souffle.
« Vous allez voir vous-même que je ne peux pas. »
Et s'étant approchée de l'arrière du chariot, elle souleva brusquement un coin de la toile goudronnée.
« Regardez. »
À la lueur de la lanterne, apparut une caisse en bois blanc, recouverte d'une étoffe noire.
Il y a là le corps du baron de Plémoran, ancien zouave pontifical, mort sur le champ de bataille.
Elle fut obligée de s'interrompre quelques secondes, comme pour retrouver sa voix, puis elle ajouta
« C'était mon mari. Je l'ai enseveli ce matin. On se battait. Personne ne voulait le transporter. Alors j'ai acheté à un paysan ce cheval et cette charrette. »
Ne trouvant rien à dire, Gabriel Marty enleva son képi, tomba à genoux, fit un signe de croix et se mit à prier. Un quart d'heure après, la charrette filait sur la route au petit trot du cheval. la veuve du baron de Plémoran conduisait. Et derrière elle, le jeune soldat, étendu dans la charrette sur de la paille, dormait déjà profondément à côté du cercueil. Le cheval était un lourd mais solide cheval de labour. Pour lui faire garder le trot, la jeune femme le fouettait à chaque instant. La route défoncée et presque détruite par les allées et venues de plusieurs corps d'armée devenait à chaque instant très difficile. La jeune femme s'en tirait en personne, ayant beaucoup monté à cheval. Il pouvait être 9 heures du soir. Une montée très raide et très longue se présenta. Il ne s'agissait plus d'aller au trot. Elle quitta le fouet, tint les rênes plus lâches, laissa le cheval aller à sa guise. Maintenant, elle se livrait tout entière à ses réflexions. Sans se rendre compte du pourquoi, elle se sentait devenue très calme. Son corps n'éprouvait plus cette agaçante trépidation nerveuse qui, une heure auparavant, la secouait malgré elle. Puis elle se dit que c'était peut-être à la présence du blessé qu'elle devait sa présente tranquillité. N'y a-t-il pas des moments où la compagnie d'un enfant au maillot, même d'un animal, suffit pour réconforter? Qui sait, le lendemain, on amputerait peut-être ce garçon. Dans 24 heures, il serait peut-être mort, comme monsieur de Plémoran. Eh bien, c'est ainsi qu'il le lui fallait. Valide, bien portant, bien armé, prêt à lui prêter main forte, elle n'en aurait plus voulu. Pourquoi? Parce que maintenant qu'elle avait tant fait que d'être héroïne, elle ne voulait pas qu'on lui gâtât son héroïsme. Aussi, son plan était-il arrêté. Tant que le jeune soldat ne remuerait pas davantage, continuerait à ne pas être gênant, elle le voiturerait jusqu'à ce que, le jour venu, elle pût le laisser dans une auberge ou dans quelque ferme hospitalière. Elle donnerait même de l'argent pour que le malheureux ne manquât de rien, fût soigné convenablement. Puis elle continuerait son voyage jusqu'à ce qu'elle atteignît la prochaine gare de chemin de fer. Si la voie était coupée, elle irait plus loin. Dût-elle faire encore 100 kilomètres seule, au milieu de cette contrée où plusieurs corps d'armée se battaient depuis 15 jours, elle finirait bien par trouver un train qui la ramènerait en Basse-Bretagne, à Plémoran, elle et les restes de son mari. Qu'avait-elle à craindre après tout? On respecte généralement les morts. Que le hasard de son voyage funèbre lui fît traverser un détachement armé, le pire qu'il pût lui arriver était qu'on fouillât le chariot. Allemands ou Français, corps réguliers ou houlanes, ou francs tireurs, se découvriraient devant un cercueil et la laisseraient passer librement, en lui présentant les armes. Pas d'autre danger, en somme, que celui des maraudeurs, isolés, traînards, déserteurs ou paysans avides. Elle avait entendu parler de cette écume malfaisante que deux armées en campagne soulèvent toujours à leur suite, de ces corbeaux humains qui, le lendemain d'une affaire, s'abattent sur le champ de bataille pour détrousser les cadavres, qui achèvent les blessés afin de les fouiller plus à l'aise. Contre ces lâches, quelle que fût leur nationalité, elle avait un revolver. Sa main droite s'enfonça dans la grande poche de sa pelisse pour le palper. Il y était toujours. Elle se sentit très rassurée. Puis le cours de ses pensées changea. Ce n'était plus elle qui courait ainsi la nuit, seule sur les grands chemins, mais une autre, une femme extraordinaire, qu'elle avait quelquefois rêvée, vivant d'une vie qu'elle n'avait jamais vécue. Et l'incroyable de l'aventure, l'invraisemblance de cette réalité, la faisait par moments rire d'un vague rire intérieur. Cette femme extraordinaire, tout enfant ne lui était-elle pas apparue dans les 80 pièces délabrées du château de Plémoran? Son oncle, lui, le vieux marquis, à l'humeur taciturne, passait encore, malgré son âge, des 3 jours de suite à la chasse, restait des mois entiers sans lui parler. Démesurément grande, sèche et anguleuse, laide et mal habillée, sa tante, quand elle n'était pas à prier dans la chapelle au fond du parc, lui faisait réciter son catéchisme, l'épouvantait sur les supplices de la damnation éternelle, ou lui expliquait les recettes pour conserver les pommes. Son cousin Germain, de 15 ans plus âgé qu'elle, monsieur Trivulse, mauvais comme une gale et égoïste comme un fils unique, bien que déjà fiancé à mademoiselle Edith, ne se souciait pas plus d'elle que d'une de ces pauvresses en haillons qu'il mettait en fuite à coups de pierre lorsqu'il les apercevait glanant quelques branches de bois mort. Un des grands amusements de monsieur Trivulse pendant les récréations que lui laissait l'abbé son précepteur, ne consistait-il pas à pousser, à pincer ou à battre celle qui devait devenir sa femme? Il l'eût peut-être estropiée pour la vie sans la protection de sa nourrice à elle, bonne bretonne, née à Plémoran, ne sachant ni lire ni écrire, une imagination naïvement poétique qui lui racontait toutes sortes de légendes. De ces légendes sucées en bas âge comme un lait héroïque et merveilleux, des portraits de famille, quelques-uns noirs de la poussière de plusieurs siècles, accrochés dans les immenses galeries, des vieilles tapisseries seigneuriales usées jusqu'à la trame, de l'atmosphère même sombre et rance de ce séjour peu récréatif, Mademoiselle Edith avait évoqué une idéale créature. Forcée de vivre en dedans, portée à la rêverie par la contrée elle-même, par ce ciel couvert, par ces grands bois, par ces coups sourds de l'océan non loin de là martelant la falaise, par le vent s'engouffrant dans les vieilles croisées disjointes et mugissant à travers les interminables corridors, elle fut morte sans cette compagne invisible qui semblait grandir et se modifier en même temps qu'elle. D'abord, son enfance sans jeu avait longtemps joué avec cette petite sœur du rêve. Puis, vers 14 ans, lorsqu'elle se cachait pour lire des romans de chevalerie dérobés dans la bibliothèque, la petite sœur s'était changée en une belle châtelaine héroïque, inspirant de nobles passions, aimée par de purs chevaliers qui tombaient mortellement frappés en baisant une mèche de cheveux. La beauté de la belle châtelaine héroïque était faite de 100 traits divers empruntés à toutes les Plémorans de plusieurs siècles accrochés dans la galerie des portraits. L'élégante sveltesse de sa taille descendait de la raideur hiératique de telle contemporaine de Philippe Auguste. Elle possédait les grands yeux cerclés de bistres de celle-ci qui avait fait sensation à la cour de Louis XIII, et le teint de lys et de rose de celle-là relevé par une mouche comme on en portait sous la Régence, et le noble port de tête de cette autre, et le nez un peu busqué de toute cette rangée, enfin de cette dernière l'adorable cou de cygne, impitoyablement tranché un jour par le couperet du docteur Guillotin. Aussi de 14 à 19 ans, la belle vie. Trivulse, son éducation terminée, vivait à Paris à sa guise, en attendant l'heure de son mariage arrêté d'avance avec sa cousine Germaine. Le marquis, les jambes percluses, ne bougeait de son grand fauteuil, parlait peu, n'admettait d'autres soins ni d'autres compagnies que celles d'un vieux serviteur septuagénaire. Sa tante avait joint à ses stations dans la chapelle l'élevage des perruches et des petits chiens. Alors elle avait joui de la plus grande liberté. Quelle chevauchée folle dans les profondeurs des bois ou le long de la falaise, escortée seulement de loin par 2 gardes-chasse. Elle aimait aussi passionnément la lecture. La nuit surtout, quand tout dormait depuis longtemps dans le château, elle, blottie dans son large lit à colonnes, la grande lampe sur la table de nuit. Le vent avait beau mugir par les fentes des portes avec des plaintes d'âme en peine. Les 12 heures rapides où l'immobilité du corps rendait sa pensée plus ailée. La vivante et féconde solitude peuplée d'intenses visions. Que de fois, ayant enfin soufflé la bougie, elle avait dû tirer les lourds rideaux de son lit afin de ne pas voir la lumière du jour naissant. Il est vrai qu'elle ne se réveillait alors qu'au premier coup de cloche sonnant le déjeuner, et qu'elle descendait en retard, les yeux battus, très pâle. Mais sa tante, qui n'avait jamais fini de bichonner sa petite meute, descendait plus tard qu'elle. À la longue, la bibliothèque entière y avait passé. Dans un vieux Robinson Crusoe dont il manquait des pages, l'empreinte du pied de Vendredi l'avait fait palpiter. Elle avait lu 2 fois tout Walter Scott, et une histoire des croisades interminables, et des romans du Moyen-Âge, puis des récits de voyages merveilleux, la conquête du Mexique par Fernand Cortés. Atala, René et les Natchez avaient noyé son esprit dans une brume poétique, au milieu de laquelle, subitement, un coup de clarté, la lecture d'un volume dépareillé de la Comédie humaine. Ensuite, elle s'était jetée sur le théâtre, rien compris à un Shakespeare traduit par Ducis. Racine l'avait ennuyée, mais elle avait fait des trouvailles d'émotion dans Corneille. Molière l'avait fait rire sans la passionner, à un âge où, ne sachant rien de la vie, elle ne comprenait pas les dessous cruels du rire. De même, elle avait avalé, sans se l'assimiler, Diderot, les 100 volumes des œuvres complètes de Voltaire, des livres de chimie et d'histoire naturelle, le dictionnaire philosophique. Puis un jour, qu'assommé par des livres qui n'étaient pas à sa portée, n'ayant plus rien à lire et assoiffé de nouveau, elle bouleversait de fond en comble la bibliothèque, le hasard lui avait révélé l'existence d'un secret. Elle n'avait eu qu'à presser un imperceptible bouton simulant une nodosité naturelle du bois, et un panneau avait basculé, découvrant une cavité cachée. Elle était tombée sur une vingtaine de volumes pornographiques. Celui qu'elle ouvrait au hasard, un roman du marquis de Sade, ne lui apprenait rien, tant était grande alors son innocence. Elle en feuilletait plusieurs autres sans y comprendre un mot. Puis elle ouvrait Gamiani, par le vicomte Alcide de T, avec gravure. À la vue de ces gravures, elle devenait tout de suite très rouge. Une brûlure subite lui courait le long de l'épine dorsale. Et elle se tournait du côté de la porte, inquiète, indécise. Une domestique, ses chambres achevées, balayait la galerie précédant la bibliothèque. Sa tante allait passer pour se rendre à la chapelle. On pouvait entrer. Alors, refermant précipitamment la cachette, Edith s'enfuyait au bout du parc, au fond d'un bosquet touffu où nul autre qu'elle n'était venue depuis 10 ans. Là, sûre de n'être pas dérangée, au pied d'un vieux faune en pierre mutilé, lutinant une nymphe sans bras, elle avait regardé de nouveau les gravures. Puis elle avait ouvert un autre volume, Daphnis et Chloé. Celui-là, elle le dévorait d'un bout à l'autre sans en sauter une ligne. L'inoubliable après-midi. Depuis 3 semaines, elle venait d'avoir 19 ans. En juin, il faisait chaud. Autour d'elle, dans la profondeur des charmilles, de doux frottements d'ailes palpitaient avec un bruit de caresses invisibles. La joue embrasée et le front en sueur, suffoquée, elle cessait parfois de lire. Deux papillons blancs voltaient lentement l'un autour de l'autre, puis finissaient par ne faire qu'un seul papillon blanc. Le soir, à table, elle n'avait pas mangé. Alors, pendant 2 longues années, de 19 à 21 ans, elle s'était sentie tout autre. Cette sœur du rêve, cette créature imaginaire qui, dans son enfance, avait partagé ses jeux, puis qui avait grandi en même temps qu'elle, qui s'était embellie des beautés éparses de toute une race et des ressouvenirs adorables de ses lectures, où donc s'était-elle retirée? Était-elle retombée dans le néant? Ou bien, retenue au loin par une puissance supérieure, gémissait-elle en secret, le cœur gros, les yeux noyés de larmes éternelles? Car il n'était pas possible que l'apparition immaculée, la touchante compagne de ces années chastes, se fût changée en bête. Et c'était vraiment une bête qui l'avait tentée nuit et jour pendant ces 2 ans, une bête lâchée et impudique, chevauchant des voluptés immondes, rêvant un assouvissement irréalisable. Pas de répit. Aussi bien les jours dans le solennel ennui du vieux château, que les nuits, ces nuits brûlées, où l'aurore finissait par la surprendre n'ayant pas fermé l'œil, mordant de rage son oreiller. La belle saison faisait-elle palpiter la campagne d'un frisson de vie, elle partait au grand matin, à pied ou à cheval, tout à son idée fixe, espérant vaguement se contenter au milieu du rude général des êtres. Mais elle rentrait exaspérée, dans un état à faire pitié, montait droit à sa chambre, s'y enfermait à clé, arrachait sa robe ou son amazone, dégrafait son corset et se jetait la face contre son lit, étouffant, ouvrant les bras dans le vide à un être inconnu, puis les tordant de désespoir, retenant des appels rauques. Sur la route nationale, dans une voiture de bohémien, n'avait-elle pas vu une fille de son âge, aux cheveux crépus, toute dépoitraillée, dormir en tenant embrassée la taille du beau mâle qui conduisait? À travers une haie, elle avait écouté les petits cris d'une paysanne, renversée par un valet de ferme dans l'herbe fauchée, et ne résistant au gars qui lui relevait le jupe que par des
« Fini, Pierre! J'appelle! Je me fâche !»
Devant ses yeux, la fille de la ferme avait aidé le taureau à saillir une vache. Deux mésanges, sur une branche, s'étaient accouplés. Elle n'était ni la mésange, ni la vache, ni la paysanne, ni la bohémienne. jusqu'aux émanations des fleurs printanières qui empoisonnaient l'air d'un irritant parfum d'amour. Elle était devenue très maigre. Un grand cercle bleu lui avait entouré les yeux. Elle était tombée malade. Un médecin mandé de la ville lui avait ordonné du fer. Sa tante faisait brûler des cierges à la chapelle. La nourrice, qui ne savait ni lire ni écrire, marmottait entre ses dents
« Il faudrait la marier. »
Puis la bête cynique qui l'avait hantée pendant ces années malsaines s'était anéantie à son tour. Du jour où elle avait épousé Trivulse, revenu de Paris pour la circonstance, tout était mort en elle. Rien qu'à la façon dont celui qu'elle revoyait après 5 ans avait déposé sur son front le premier baiser de fiancé, elle s'était sentie écrasée d'un immense désespoir. Le mariage s'était pourtant consommé sans qu'Edith osât proférer une plainte, s'ouvrir à son oncle ni à sa tante, risquer une objection. Dans l'église de Plémorens, sous son voile de mariée, au moment de devenir la femme de ce cousin qui la battait dans son enfance, resté tyrannique et sot, un étouffement lui avait serré la gorge. Elle avait subitement manqué d'air, comme si, tombée dans une fosse, elle s'était sentie sceller une pierre tombale sur la tête. Enfin, au bout de 15 mois, voilà qu'en cette fosse étouffante du mariage, par une fissure inespérée, un peu d'air et de jour avait pénétré. La guerre ayant éclaté, après nos premières défaites, Trivulse était revenu un soir de chez un voisin, monsieur de Rérazel, en disant « Grande nouvelle, vous ne savez pas ? Châtelineau arme des volontaires, Rérazel en est, et de la Ferté, et de Keralu, et de Quiberon. » Elle l'avait regardé avec plus d'intérêt qu'à l'ordinaire. « Moi, je pars demain, » avait-il ajouté simplement. À la bonne heure, elle avait reconnu là un Plémorant, et qui en était, et elle lui avait tendu la main avec une sympathie qu'elle ne lui avait jamais montrée. Le lendemain, il était parti. Aujourd'hui, elle l'aura mené, mort, couché dans cette caisse de bois blanc. Et Edith tourna la tête vers l'arrière de la charrette.